Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal, présenté par Patience Ngalula.
Au sommaire de cette édition d'information, les festivités des Nouvel An célébrées différemment compte tenu des moyens de chaque famille dans la ville de Beni. Les personnes déplacées vivant dans cette ville dépourvue de tout ne se contentent que de la bonne santé et ne désirent que le retour de la paix dans leurs villages respectifs. Vous allez entendre quelques-uns dans ce journal. L'administrateur du territoire d'Arou dresse un bilan plutôt positif de la situation sécuritaire en 2024 dans sa juridiction. Le colonel Richard Mbambi Kingana, qui l'a dit hier à Radio Kapi, reconnaît cependant quelques cas de meurtre et de la criminalité urbaine enregistrés l'année dernière. Il est à suivre dans ce journal. Le ministère de la Justice a révélé qu'une somme de 50 millions de dollars américains est dorénavant mise à la disposition du FRIVAO pour l'électrification de la ville de Kisangani. C'est dans un communiqué qu'il a diffusé depuis le 21 décembre dernier. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le député national Théovel Lotika, l'une des personnalités ayant plaidé cette cause. Bienvenue à ce journal. Au Nord Kivu, la fête du Nouvel An est différemment célébrée dans la ville de Beni. Pour ces premiers jours de l'année, plusieurs familles se sont bien préparées pour partager des repas, des convivialités, effectuer des sorties dans des hôtels et d'autres lieux publics. Cependant, les déplacés se contentent seulement de la bonne santé car n'ayant rien à partager. Guylaine Kassassia a visité certaines familles. Voici son reportage.
Au site des déplacés de Kasabignole, où vivent une dizaine de familles, c'est un silence qui règne. La plupart des déplacés sont allés au culte pour prier Dieu, nous dit cette mère des 10 enfants venue de Kainama il y a 2 ans que nous rencontrons en train de nettoyer un morceau de peau de vache pour préparer et d'inattendre que le retour de la paix pour pouvoir retourner dans son milieu d'origine.
La fête nous est arrivée dans cette douleur de chaque jour. J'arrange la peau de bœuf que voisin m'a apportée. Je n'ai même pas de farine pour en faire un repas. Peut-être que jusqu'au soir, une autre personne de bonne volonté peut nous arriver et nous apporter de la farine. Notre souhait, c'est le retour de lapin dans notre village.
Sa voisine d'une dizaine d'années dit avoir préparé du lait de soja le matin et en a réservé un gobelet à sa grand-mère qui était partie au culte. Ailleurs dans la ville, de nombreuses familles que nous avons visitées étaient à pied d'œuvre pour le préparatif de la fête, les cas de Sifamatoumou.
C'est une grande fête parce qu'on vient de finir l'année. Il faut bien manger aujourd'hui. Avec ma famille et les enfants, aujourd'hui, on va terminer ici à manger à la maison. Maintenant, on va partir à Albertine pour continuer seulement la fête.
Pendant ces temps, les gérants des bars, buvettes et hôtels s'apprêtent à accueillir leurs clients dans la soirée. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Du côté du Sud Kivu, la ville de Bukavu est en ébullition festive durant cette période des fêtes de fin d'année. Véhicules et piétons se bousculent sur les principales avenues de la ville. Chacun veut passer le premier, mais les embouteillages leur imposent un moment de patience. Un constat fait sur place par Jean Kassami.
L'avenue Patrice Emery Lumumba, principale artère de la ville de Bukavu, est la plus encombrée. Même les piétons manquent de passage, les véhicules envahissent toute la chaussée.
Comme à la place dite chez Baba Chingazi, il y a des milliers et des milliers de personnes, une population aussi vaste que celle-ci.
Les chauffeurs émiettent les axes de parcours afin de doubler, tripler, quintupler le prix habituel de la course.
Ça m'empêche d'arriver à la destination à l'heure prévue.
Les embouteillages, c'est un aspect qui affecte négativement mes courses étant donné qu'on reste coincé dedans. Et bien évidemment, la fluctuation des prix des produits de première nécessité. On arrive au marché, on ne sait plus où mettre la tête. C'est vraiment compliqué ces derniers temps.
Ça crée beaucoup d'embouteillages parce qu'il y a des marchés qui s'installent un peu partout. Il y a confinement des gens, de même que de véhicules. Ce qui n'est pas vraiment en faveur de la population.
Les personnes aptes font la marche à pied, au lieu de s'éterniser sur des files d'attente où les passants se jettent à bord des taxis et des taxibus comme sur une aubaine. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Restons au Sud Kivu. La Bonana 2025 se célèbre dans un contexte économique particulier dans la ville de Bukavu, si pas dans toute la province. Les prix des produits de première nécessité grimpent en défaveur de la masse laborieuse. Encore une fois, Jean Kassami a promené les micros dans les rues de Bukavu et a recueilli les points de vue que voici.
La fête de Bonana 2025 n'est pas très chaleureuse comme il en est d'habitude. Dans la ville de Bukavu, l'on accuse l'absence de circulation de la monnaie. Donc le marché n'est pas très achalandé. Les grands acheteurs sont les fonctionnaires et dès lors qu'ils ne sont pas payés, la monnaie ne circule pas. Et il y a beaucoup de plaintes que la monnaie est dans les mains des gros poissons du pays. La classe moyenne ne se retrouve pas.
Auparavant, lorsque l'État donnait de bons salaires, on sentait que toute la ville bouillonnait, mais aujourd'hui c'est différent. Les gens ne sont pas contents parce que même dans les boîtes de nuit, dans les nganda, pratiquement il n'y a personne. Il y a les enfants qui demandent à ce qu'ils soient bien vêtus, soient bien nourris. Leur maman voudrait qu'elle soit aussi bien habillée en ce jour de la bonne année, mais ce n'est pas le cas. Vous lisez la misère dans la population. Il y a même des gens qui n'ont pas eu de quoi manger aujourd'hui. Les gens sont en train de mourir à l'hôpital.
La journée du 1er janvier 2025, il n'y a pas de véhicules sur la route. Les taxis, les véhicules privés, on en compte au bout des doigts. Mais pour ce qui est de vivre, curieusement, ils ont vendu.
Nos habitants profitent de la naïveté de nos autorités. Au lieu de réglementer les prix sur les marchés, nos autorités, elles aussi, se taisent. Et le genre de mauvaise foi. Les petits commerçants, tout comme les grands commerçants, profitent.
Festivités de Nouvel An toujours. À Kalemi, le marché Lukuga, situé à côté de la place Kisebwe, a été pris d'assaut par la population. C'est le principal marché de la ville. Chacun voulant se procurer des vivres pour bien passer le Nouvel An. Un reportage de Paulin Munanga qui a fait un tour au marché Lukuga.
Nous sommes au niveau du marché Kisebwe. Cette vendeuse de poulets abattus avoue avoir fait une bonne affaire dans la soirée d'hier, la veille du Nouvel An. La journée d'hier, Dieu m'a béni. J'ai réussi à écouler au moins 15 cartons de poulets. Mais aujourd'hui, le 1er janvier, les choses ne marchent pas très bien. Du côté de la viande des bœufs, les affaires marchent tant bien que mal. Je vends la viande, mais le marché n'est pas très florissant. Seuls les vendeurs de poulets ont fait une bonne affaire. Les rayons réservés aux poulets sur pied au niveau du marché est très sollicité, témoigne l'un des vendeurs. Quant aux vêtements, ils ne s'écoulent pas facilement. Plusieurs personnes privilégient la nourriture, explique cette vendeuse de vêtements. Cette fois-ci, j'ai vendu pour 50 000 francs congolais seulement. Les gens sont concentrés sur la nourriture. Ils achètent difficilement les habits. Le constat fait au niveau du marché Lukuga de Kalemi est que le prix de produits de première nécessité n'a pas baissé malgré la promesse du gouvernement. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Les déplacés de Kwamout vivant à Bandunduville, au Kwilu, viennent d'être assistés en vivre par les gouverneurs de la province du Maïndombe pour leur permettre de bien festoyer. Nkoso Kevani leur a envoyé notamment des poulets et du riz. C'est le député provincial David Bisaka, président de l'Assemblée provinciale du Maïndombe, accompagné du sénateur Herman Mutima Sakrini, élu des Maïndombe, qui a procédé à la remise de ses biens lundi. Sujet de joie pour ces déplacés qui remercient les gouverneurs. Les points avec Irène Bomaluzolo.
Cette assistance accordée aux déplacés de Kwamout basés à Bandunduville est essentiellement constituée de cartons de poulet, des sacs de riz, des boîtes de tomates et tant d'autres vivres. C'est une dotation du gouverneur de la province du Maïndombe, Lebon Kosokevani. Pour le vice-président de l'Assemblée provinciale du Maïndombe, qui est l'envoyé spécial de l'autorité provinciale, cette initiative est une réponse directe aux appels à l'aide lancés par ces personnes en détresse. Cela pour leur permettre de bien passer les festivités de fin d'année. Satisfaits, les bénéficiaires remercient leurs bienfaiteurs pour ce geste d'amour posé en leur faveur.
Nous lui remercions avec son geste qu'il a essayé de songer à nous, puisque ça fait longtemps, depuis 2022, on n'a rien réalisé pour nous. Et aujourd'hui, c'est une chose-là étonnante. Nous avons vécu avec deux ou trois gouverneurs là-bas qui n'ont même pas pensé à nous. Et lui qui est entré aujourd'hui au pouvoir, il pense directement aux déplacés de Kwamout. Vraiment, c'est une joie pour nous. nous.
Signalons que le député provincial David Bissaka s'est fait accompagner du sénateur Herman Mouti Massakrini pour procéder à la remise de ses biens aux déplacés. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans la ville de Mouenéditou, province de l'Omami, un policier a tiré à bout portant sur trois Chinois de l'entreprise Crexis. Selon l'auditeur militaire garnison de Mouenéditou, colonel Justin Bora Ouzima, l'agent de police a tué sur les coups deux et a blessé grièvement un autre. Le mobile du crime n'est pas encore connu, mais des témoins parlent d'une dispute autour de la viande d'un bœuf tué à l'occasion des festivités de fin d'année. Le présumé meurtrier est en fuite et les autorités locales redoutent l'impact de cet incident sur la poursuite des travaux de modernisation de 4 km de la RN1. Le maire de la ville, Gérard Tshibanda Kabwe, a confirmé les faits et a promis de s'exprimer prochainement. À Nitouri, je le disais au sommaire, l'administrateur du territoire d'Arou dresse un bilan plutôt positif de la situation sécuritaire en 2024 dans sa juridiction. Dans une déclaration faite à Radio Okapi ce mercredi 1er janvier 2025, le colonel Richard Mbambi Kingana déclare qu'au-delà de quelques cas de meurtres et de la criminalité urbaine enregistrés l'année dernière, la paix règne plutôt sur toute l'étendue de son entité. Il encourage la population à œuvrer pour le développement du territoire en évitant des conflits inutiles. Le commissaire supérieur principal Richard Mbambi Kingana l'a dit au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Il est vrai que nous avons connu des hauts et des bas avec la frontière sud-soudanaise. Ça nous cause un peu des problèmes parce qu'il y a des moments où le malfrat quitte le Sud-Soudan, entre ici, traverse et va même en Ouganda. Le seul coin où nous connaissons de temps en temps la présence des groupes armés, c'est du côté de Ndo, où les groupes armés passent des Maïki pour aller vers Djougou et vice-versa. Mais la partie de la rivière où l'eau est calme, c'est là où vous allez trouver des crocodiles. C'est là où vous allez trouver des serpents venimeux. C'est pour dire quoi? Arou se caractérise par une paix de manière générale, oui, c'est vrai, mais nous devons toujours faire attention. Nous devons agir ensemble. La population doit collaborer toujours avec sa police, avec son armée, avec ses services de sécurité. Parce qu'un voleur, un malfrat, un assassin, quand il arrive, il ne passe pas nuit chez les commandants, il ne passe pas nuit chez M. l'administrateur du territoire, il passe nuit à la cité, il passe nuit dans un hôtel.
Autre nouvelle, 3 morts et 10 de maisons incendiées. C'est le bilan provisoire d'un conflit frontalier et d'exploitation entre 2 localités, Bosso Ngwanza et Bosso Alama, dans les groupements Bobène de Mouira, secteur des Gambalo, territoire des Bassankoussou, dans la province de l'Équateur. Cette information est livrée par l'acteur politique Junior Bompongo et confirmée par des sources concordantes. Il appelle les autorités, tant provinciales que nationales, d'intervenir rapidement pour mettre fin à cette situation qui prend des allures inquiétantes. On écoute Junior Bompongo, joint par Grace Amzati.
Par ce message, je souhaite déplorer la situation qui se déroule dans le territoire de Bassankoussou, secteur de Gombalo, groupement de Bombène de Mouira, entre les populations de 2 localités respectivement, que je cite, Bossalama et Bosso Ngwanza. Depuis les nuits du 30 jusqu'au 31 décembre de l'année écoulée, la population vit dans une psychose très inquiétante, où un exploitant forestier non encore identifié a essayé de franchir les limites du territoire en provenance de la localité de Bossalama. Ainsi, partant de cette situation, il y a eu des incendies des maisons, il y a eu les morts d'hommes et aussi les cas de blessés. Donc, partant de cette situation que nous déplorons, en cette période de festivités, et nous sollicitons l'implication immédiate des autorités politico-administratives d'assurer la sécurité pour mettre hors tout état de nuire à la quiétude de cette communauté. Au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de diligenter une enquête afin que les commanditaires de cette situation soient tenus pour responsables.
Les entreprises minières opérationnelles dans la province de la Tchopo se trouvent dans l'irrégularité. Alors qu'elles ne détiennent que des permis de recherche, elles se lancent cependant dans l'exploitation. Le ministre provincial chargé des mines l'a révélé mardi au cours d'une entrevue avec la radio Capi. Afin de réglementer ces secteurs, Thomas César Messemo Amessemo envisage une descente sur terrain au cours de la 2e quinzaine du mois de janvier en cours. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
142 entreprises minières sont opérationnelles sur toute l'étendue de la province de la Tchopo, révèle le ministre provincial chargé des mines. Thomas César Messemo Wamessemo souligne que toutes ces sociétés tenues par des expatriés, notamment des Chinois, ont signé de partenariats avec des coopératives minières locales. Curieusement, toutes travaillent dans l'irrégularité, hormis la société Libella présente dans les territoires de Bafouassendé et Banalia.
Ils obtiennent leur permis de recherche au niveau du cadastre minier. On ne les voit pas. On voit dans la cartographie. Ils n'ont ni représentation au niveau de la province et même ne sont pas passés pour venir se présenter. Or, avant toute activité minière, les codes miniers disent que toutes ces entreprises doivent passer pour obtenir les récépissés.
Ce récépissé donne droit à la détentrice d'entrer en contact avec les autorités coutumières de l'entité concernée avant de s'installer. Outre le manque de ces documents, on retrouve aussi des militaires dans les zones minières au mépris de la législation en vigueur, a déploré récemment le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Ce qui a poussé l'organe de Libérin de prendre une résolution suspendant les activités minières sur l'ensemble de la province. En vue de réglementer ce secteur, le ministre chargé des mines annonce pour la deuxième quinzaine du mois de janvier en cours un contrôle systématique de toutes les entreprises opérationnelles dans les différents sites miniers de la Tchopo. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le président Alassane Ouattara a annoncé le départ des forces françaises de la Côte d'Ivoire. Mardi, lors de son traditionnel message de vœux du nouvel an, il a précisé qu'il s'agissait d'un retrait concerté et organisé. Ce retrait sera suivi de la rétrocession du 43e bataillon d'infanterie de marine des ports boués aux forces armées ivoiriennes dès ce mois de janvier avec un nouveau nom attribué à l'unité. Le chef de l'État ivoirien a exprimé sa confiance en la capacité de son armée à assurer la sécurité nationale du pays.
L'invité.
Un communiqué diffusé par le ministère de la Justice depuis le 21 décembre dernier fait état de 50 millions de dollars américains mis à la disposition du FRIVAO pour l'électrification de la ville de Kisangani. Les communiqués soulignent que cette enveloppe s'inscrit dans le cadre de l'indemnisation collective de la population de cette ville qui en avait fait d'ailleurs la demande. Parmi les personnalités qui ont mené les plaidoyers auprès des autorités nationales, notamment auprès du chef de l'État, figurent les députés nationaux Théovel Lotika. Il s'entretient à ce sujet avec Jacques Moukonkole.
Honorable Théovel Lotika, bonjour.
Bonjour.
Honorable Théovel Lotika, vous faites partie des personnalités impliquées dans les lobbying auprès du chef de l'État pour que le FRIVAO octroie une enveloppe à la SNEL pour la réhabilitation de l'électricité à Kisangani. Un communiqué du ministère de la Justice à ces propos circule depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Avez-vous connaissance de ces documents? Si oui, comment réagissez-vous?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai, nous avons suivi comme vous aussi ces communiqués du ministère de la Justice. Nous avons lu aussi dans les réseaux sociaux ce communiqué disponibilise à la SNEL 50 millions de dollars du fonds FRIVAO. Si tel est le cas, si c'est réellement un communiqué qui est authentique, nous félicitons le ministre de la Justice pour ce geste, pour nous avoir écoutés, parce que nous avons plaidé pour qu'on mette à la disposition de la SNEL un fonds important pour ne pas réparer les groupes, mais pour acheter les nouvelles machines de la centrale hydroélectrique de la Tchopo.
Après votre plaidoyer à Kisangani, la réponse s'avérait imminente. On disait même dans les jours ou la semaine qui suivait. Donc, vous n'avez plus fait de suivi après des contacts avec l'autorité suprême.
Non, c'est-à-dire que nous avons commencé, comme vous le savez, nous avons commencé par initier une action contre le directeur de la SNEL. C'était mon action. J'avais fait une question adressée au directeur de la SNEL et il a répondu. En répondant, il nous a fait voir que les 9 millions lui donnés avant n'étaient pas suffisants pour réparer ou réhabiliter la centrale hydroélectrique. Alors, il fallait plus que ça.
Combien fallait-il alors?
En parlant avec le directeur de la SNEL, nous avons compris que, en tout cas, si on avait à peu près 50 millions de dollars, on pouvait avoir du courant dans cette centrale-là. Voilà pourquoi, sachant cela, nous avons plaidé, pas seulement auprès du président de la République, mais auprès du ministère de la Justice qui gère les fonds FRIVAO. Et voilà ce qui est là. Mais apparemment, en suivant les dernières communications du directeur de la SNEL, même le 50 millions de dollars serait insuffisant et qu'il fallait le double de cela. Mais il est vrai qu'en lisant les communiqués émanant du ministère de la Justice, on a décaissé ces fonds-là, ce qui est déjà une très bonne chose. Nous demanderons, si c'est encore insuffisant, au directeur qui nous donne des explications claires et nettes, combien il faut pour que la centrale hydroélectrique de la Tchopo puisse être en état et de manière à ce que qu'on puisse desservir les courants électriques à la population de la Tchopo.
Quoi qu'il en soit, honorable, avec les 50 millions de dollars, on peut déjà entamer les travaux, on peut quand même apporter un soulagement au Boyomé.
Il y a eu contradiction dans le propos du DG de la SNE. Moi, je me rappelle que lorsqu'il nous avait invité à Kisangani, il a parlé de 55 millions de dollars. Mais lorsque nous sommes retournés à Kinshasa et devant une commission, c'était dans une commission où il y avait le ministère de la Justice, le ministère de ressources hydrauliques, il a évolué en allant un peu, je pense, le double de ce qu'il avait proposé lorsque nous étions à Kisangani. Là, on ne comprend pas. Et voilà pourquoi, lors du débat général du budget 2025, il y en a des non-députés nationaux qui sont intervenus pour qu'ils soient inscrits dans le budget de la République, un montant important pour réparer la centrale hydroélectrique, et je pense que c'était demandé par le professeur Matata.
Est-ce que vous avez une idée sur l'enveloppe qu'il avait proposée, les chiffres?
Non, le professeur Matata avait demandé justement qu'on puisse allouer près de 60 millions de dollars. C'était à cause de l'évolution des propos du DG. Parce qu'avant, il en avait parlé des 50 millions. Nous avons fait des démarches, nous avons convaincu le ministère de la Justice pour qu'on donne 50 millions. Mais après, il dira encore que c'est à peu près de 100 millions de dollars ou 110 millions de dollars. Bon, ça évolue au fur et à mesure que les jours passent. Et ça, ce n'est pas correct.
Selon vous, que faudra-t-il faire alors pour mettre un terme à cette polémique sur l'enveloppe allouée à la SNEL pour les travaux de la centrale?
Nous voudrions que le directeur de la SNEL puisse communiquer des manière claire. Qu'est-ce qu'il faut pour réhabiliter complètement cette centrale, ou pour construire une nouvelle centrale, ou pour acheter les nouvelles machines de la centrale hydroélectrique? Il faut combien qu'ils nous disent. Nous avons déjà 59 millions de dollars, parce que bien avant, on lui avait doté 9 millions de dollars. C'est vrai qu'ils ont utilisé, je pense, près de 3 millions de dollars. Donc, il peut y avoir, la SNEL a pour l'instant 57 millions de dollars venant de Frivao.
Honorable Tovel Lotika, merci.
Je vous en prie.
Et c'est la fin de cette session des nouvelles sur Radio Kapi, mise en onde par Billy Landry Betou, supervision et coordination de Guy Maté et Alain Irung Mouchenge. Je suis Patience Ngalulambombo. Merci de nous avoir suivis.